8h moins le quart, la main verte avec Alain Baraton. Bonjour Alain.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Vous n'avez pas bamboché cette nuit? Quelle expression, bamboché, j'adore.
Ah, il y a des termes comme ça du vieux français qui sont parfois merveilleux à entendre.
On va parler du peuplier ce matin, mon cher Alain. À en croire son nom, le peuplier d'Italie serait originaire de ce pays?
Et pourtant il n'en est rien. Le peuplier d'Italie, ou Populus nigra italica pour les puristes, est un arbre originaire d'Iran ou d'Afghanistan, et il fut planté, on ne sait pas vraiment quand, le long des berges du Pô, avant de conquérir le territoire italien tout entier. C'est parce qu'il a été découvert par les botanistes français en Italie qu'il a été baptisé peuplier d'Italie.
Et quand arrive-t-il en France, Alain ?
En 1745, pour être précis, et pour être planté le long du canal de Briard, près de Montargis. Précision pour ceux qui ne connaissent pas ce canal, sachez qu'il relie la Seine à la Loire depuis 1642 et qu'il a été commandé par Sully.
Et pourquoi avoir choisi le peuplier ?
Pour une raison évidente, cet arbre se plaît dans les sols humides et ses racines fixent la terre. L'occasion de préciser que ce n'est pas parce qu'un arbre vit les pieds dans l'eau qu'il boit beaucoup. Un peuplier n'absorbe pas plus d'eau qu'un chêne, par exemple. Autre avantage, le peuplier pousse vite et peut atteindre en à peine 50 ans la hauteur de 20 mètres.
Et on voit aujourd'hui, Alain, beaucoup de peupliers dans les jardins.
Oui, car au milieu du XVIIIe siècle, la mode est au jardin anglais. Et la silhouette élancée du peuplier convient admirablement à ce style de jardin. Il est alors si apprécié que c'est sur l'île aux peupliers que Jean-Jacques Rousseau sera enterré à Ermenonville en 1778, avant que la Convention ordonne le transfert du corps au Panthéon. Autre facteur qui a favorisé la plantation de cet arbre, les guerres impériales. En 1796, le général Bonaparte mène la campagne d'Italie et notre général devient empereur. Les jardiniers en charge des jardins des palais impériaux veulent flatter Napoléon et ils plantent partout où cela est possible des peupliers pour rappeler justement les victoires d'Italie. Alors malheureusement, l'arbre a tendance à se raréfier aujourd'hui en ville, la faute à ses racines qui peuvent occasionner des dégâts sur les chaussées et son espérance de vie à 100 ans. Il est déjà un vieillard et c'est bien peu pour un arbre.
J'ai des souvenirs de peupliers, le peuplier et le vent.
Oui.
Le vent qui souffle dans le peuplier, ça crée une sorte de sonorité absolument superbe.
Et du mouvement. Et ce que vous dites est très juste. Quand on fait un jardin, c'est un cadre de vie. On doit également lui permettre de vivre. D'où l'intérêt de planter des arbres avec des feuilles souples et des herbacées, par exemple, qui vont là aussi bouger avec le vent.
Les questions des auditeurs, les courriels que vous avez reçus, Alain Baraton. Zoé nous écrit « J'ai vu un arbre qui avait sur le tronc comme une grosseur. De quoi s'agit-il ? »
On appelle ça une loupe. En fait, c'est une excroissance qui est provoquée par un intrus, ça peut être un clou enfoncé, un insecte qui a fait une piqûre, une anomalie. Et l'arbre, un petit peu comme une... L'image est un petit peu caricaturale, j'en conviens. Un petit peu comme une perle créée par une huître. Eh bien, l'arbre fait de même. Il va isoler cette impureté en créant autour de lui une grosseur de bois. Et les ébénistes connaissent bien la loupe, et en particulier les loupes de certains arbres comme l'orme, parce que les veinages ou les veinures du bois sont si incroyablement torturées que cela offre un bois d'une qualité inouïe, d'une beauté très rare. Donc c'est tout simplement une loupe provoquée par la présence d'un corps étranger dans le tronc du végétal.
Marie-Laure, est-il vrai, Alain Baraton, qu'il est conseillé de croiser l'ordre de passage de la tondeuse pour avoir une belle pelouse?
Oui, c'est tout à fait exact. Regardez, quand vous regardez, vous qui êtes un fanatique de football, mon cher Pierre.
Vous m'avez dit ça? Pas du tout. J'y connais rien du tout.
Voilà. Quand vous regardez,
mais Neymar joue bien. Hein.
Oui, tout à
oui,
fait.
Oui, bon.
Quand vous regardez, par exemple, et je vous raconterai pour une petite anecdote à propos de justement d'ordre de tonte.
Mais ça veut dire quoi? Oui. Croiser l'ordre de c'est passage en fait, de la tondeuse.
Vous allez bien, un stade de foot.
Oui, mais j'ai pas de jardin. Patricia fait des grands
évident.
Yeux.
Bah oui, c'est croise.
Oui, mais j'ai pas de jardin. Alors expliquez-moi, Alain.
Quand vous regardez un match de football, on voit bien sur la pelouse des alignements causés par la tondeuse. Cela prouve bien que quand on tond, on incline l'herbe d'une certaine manière. Et on est même capable, avec une tondeuse, de faire des dessins. Donc oui, pour éviter que la pelouse soit toujours systématiquement coupée dans le même sens, il est conseillé, pour fortifier celle-ci, eh bien de croiser la tonte. Juste pour une petite anecdote, on a appris le décès de Milos Forman. J'avais rencontré cet homme il y a une trentaine d'années à Versailles pour un tournage. Je devais justement tondre, à l'époque j'étais simple jardinier, je devais tondre à une certaine hauteur, mais on m'avait mal expliqué. J'ai donc eu la chance d'être insulté en tchèque par cet homme. Voilà. Donc c'est un petit souvenir que j'ai, mais c'est un grand monsieur.
Sébastien, faut-il mettre du ciment dans les arbres creux?
Jamais. Alors ça c'était la technique des architectes des années 60-70. 70-80. Je pense même qu'il y en a qui continuent aujourd'hui. Surtout pas. Imaginez, pire que, et je ne vous le souhaite pas, demain vous vous blessiez au doigt, vous mettez un petit pansement. Imaginez l'état de votre doigt dans 30 ou 40 ans. Il ne sera pas beau si vous avez retiré, si vous n'avez pas retiré le pansement. C'est la même chose. L'arbre est un être vivant qui a besoin de respirer. Si vous mettez du béton, l'humidité va stagner. Vous ne pourrez plus non plus contrôler l'évolution de la pourriture du bois. On ne fait rien. On ne met jamais de ciment dans le tronc creux d'un arbre. Ça ne sert à rien.
Une question qui vient de Toulouse. Nos lauriers roses ont mauvaise mine. La faute au gel et à la neige. Faut-il les tailler?
Oui, c'est conseillé dans ces cas-là, mais je conseillerais de ne pas trop les tailler. Je me limiterai à tailler un tiers des branches. C'est-à-dire que vous coupez un tiers des branches à la base. Vous coupez la moitié des autres tiges que vous avez épargnées. Et vous devriez, cette année, avoir de très beaux, comment dire, laurier, qui est un peu comme vous quand vous êtes chez le coiffeur. Bon, on fait la petite coupe printanière.
Il parle de moi sans arrêt, le football, le coiffeur. Mais ça n'a aucun intérêt, ne parlez pas de moi.
Mais si, je vous connais depuis si longtemps, Pierre, c'est toujours un plaisir que de parler de vous.
En tout cas, l'arbre dans ma cour, c'est un laurier.
Oui.
C'est cet arbre qui s'est affaissé à cause de la neige.
Tout à fait.
Alors, il va être élagué.
Voilà. Alors attention,
pour qu'il se redresse.
Si c'est un véritable laurier, non, l'élagage, Pierre, ne permettra pas le redressement du végétal. S'il a une forme arbustive, ça lui permettra peut-être de lui donner une forme agréable, mais soit on redresse l'arbre.
Mais c'est pas Pierre qui va l'élaguer, hein, oui, parce qu'on lui a pas confié la mission.
C'est une chance, et pour l'arbre,
et
pour
Pierre. Le conseil syndical était contre.
Un conseil de promenade ou de lecture à Alain Baraton?
Écoutez, les deux. Au cœur de la nature en Île-de-France, c'est un guide publié, un ouvrage publié chez Gallimard. Les textes sont de Pascal Mathéo, la préface de François Garde, l'occasion de découvrir quantité d'endroits en région parisienne qui méritent vraiment, vraiment qu'on s'y attarde et que l'on découvre.
Alain Baraton, la main verte, on le retrouvera le week-end prochain, samedi et dimanche avec Éric Delvaux. Merci Alain.
Avec plaisir.